bonjour. Merci d'être venu rencontrer Mickaël Mention, alors qui est un auteur, un jeune auteur, comme vous voyez, qui travaille dans une librairie à Paris, mais qui est venu jusqu'à Bordeaux nous présenter alors deux de ses derniers romans, parce que les hasards de la publication font que deux de ses romans sont parus de façon assez concomitante, deux romans très différents. Alors, le dernier, c'est La Voix secrète, qui est paru chez 10-18, collection Grand Détective, en janvier 2017. Et juste avant, est paru chez Ombre Noire, Bienvenue à Cotton Sous Warwick, un polar noir, brutal, violent, féroce, déjanté, enfin, avec beaucoup de références rock, cinéma, telles que Mickaël nous en fait part de ses passions depuis de nombreuses années. Auparavant, il est connu aussi pour avoir fait une trilogie anglaise chez Rivage Noir, qui est parue précédemment. Alors, dans l'ordre, vous avez Sale temps pour le pays, premier volet. Deuxième volet, Adieu demain. Et troisième volet, je les prends là, Et justice pour tous. Donc c'est sa trilogie anglaise qui est consacrée aux années 70, puisque c'est aussi une de ses passions, une de ses nombreuses passions, les années 70, et l'histoire de façon générale, on va en parler. Et donc c'est un auteur qui est prolifique aussi. Alors il n'a pas fait que ça, il a fait en fait, si on compte bien, 9 romans en 9 ans, enfin 9 romans publiés. Plus écrit, mais il y en a plus qui sont écrits, mais 9 romans publiés en 9 ans, donc ce qui est assez régulier finalement, avec d'autres romans qui s'intercalent, Fils de Sam, qui est dans notre vitrine, qui est paru aux éditions Ring en 2014, qui était consacré à un tueur en série qui a vraiment existé, David Berkowitz, aussi dans les années 70 aux États-Unis, et un ouvrage qui s'appelle Jeudi Noir, que tu as publié il y a quelques années, et qui revient sur un match de foot décisif. Tu n'es pas amateur de foot à proprement parler, mais tu nous en as fait part, et c'est vrai que la lecture, même si on n'est pas fan de foot, on le lit vraiment comme un vrai polar. C'est vrai que tu en as utilisé tous les codes, et c'est vrai que ça s'appelle Jeudi Noir, puisque c'est le jeudi de ce jour de la demi-finale de Coupe du Monde de foot en 82.
C'est le fameux match.
Le fameux match. La France. Voilà, tout à fait. Et donc un univers très éclectique. Alors, on dit auteur polar. Qu'est-ce que tu penses de cette étiquette? Est-ce que c'est une étiquette, auteur de noir? Comment tu vois les choses? Quel est ton propre ressenti par rapport, maintenant que tu as publié pas mal de livres, dans quel, même si l'étiquette est très subjective?
Bon, déjà, bonjour. Pardon. C'est une étiquette, on va dire, pour des questions justement de distribution ou de rayonnage chez les libraires. Je comprends cette étiquette de polar, mais je sais que, par exemple, j'écris depuis 2001. J'ai commencé par écrire du fantastique, de l'espionnage. Je suis venu au polar après. Après, j'ai fait une satire sur les médias.
Oui, le Carnaval des Hyènes qu'on n'a pas cité.
Le Carnaval des Hyènes. Mm-hmm. Donc oui, on va dire que généralement, je me présente comme un auteur de noir, parce que c'est beaucoup plus vaste et ça inclut différentes cultures qui vont du polar à l'espionnage, au fantastique aussi, hein, même par rapport au cinéma, si on pense à John Carpenter ou à Franjus, par exemple, ou ce genre de réalisateur. Oui, il y a une tendance fantastique, mais il y a toujours un discours social sous-jacent. Donc je me réclame du noir, et puis après, les gens y mettent ce qu'ils veulent bien y mettre. Et, puis voilà.
Et le fait de dérouter à chaque fois, de surprendre à chaque fois tes lecteurs, puisque tu es un auteur maintenant reconnu comme étoile montante du polar. Enfin voilà, c'est ce qu'on dit souvent. C'est ce qu'on dit souvent, mais c'est vrai que voilà.
Et le côté, je monte depuis des années. Bon, il faudrait que je m'arrête un jour.
Le côté inclassable qui déroute à chaque fois, à chaque parution, c'est voulu ou c'est juste selon ce que tu as envie de faire sur le moment? Comment te vient l'aspiration?
C'est une question d'envie. Déjà il y a plusieurs trucs, c'est-à-dire que effectivement j'écris depuis 2001. Et on va dire que voilà, mon premier roman publié, qui est assez dispensable d'ailleurs, qui était sorti aux éditions du Rocher, il est paru en 2008.
Le rhume du pingouin.
Exactement. Et pendant les 7 premières années, j'ai beaucoup démarché auprès de tous les éditeurs parisiens. Et il se trouve que j'avais déjà écrit plusieurs genres et très vite j'ai vu, enfin je me suis un peu heurté à certaines frilosités des éditeurs, dont certains reviennent aujourd'hui avec le chéquier, ce qui me fait assez marrer. Parce qu'on me disait que je partais dans tous les sens, qu'il fallait que je me trouve un genre, parce que j'allais perdre le lecteur, comme si le lecteur était handicapé ou qu'il avait un QI de haricots verts. Ça, c'est le genre de truc qui a tendance à m'énerver, c'est-à-dire ce regard un peu paternaliste des éditeurs ou des producteurs de cinéma qui partent du principe que si on multiplie trop les pistes ou les univers, on va perdre les gens. Or, les gens, j'en fais partie, hein, je suis un Jean aussi, je suis un lecteur avant tout, et ce que je veux, j'imagine que c'est votre cas aussi, c'est ce que vous attendez d'un roman, c'est une bonne histoire, c'est un bon bouquin. Après, que ça vous fasse réfléchir, que ça vous amuse, que ça vous fasse peur, c'est autre chose, mais avant tout, c'est de passer un bon moment, de manière intelligente, je veux dire, de passer un bon moment justement de divertissement, mais qui vous emmène ailleurs, et que ce soit de l'espionnage, du foot ou de l'histoire ou du polar, Donc très vite, je me suis heurté à certains conseils qui me semblaient un peu bidons, du genre choisissez-vous un créneau et puis comme ça les gens seront contents. Je disais oui, mais en même temps, moi si j'ai envie de passer du coq à l'âne à chaque fois, donc c'est ce que je fais, en sachant que forcément c'est sans doute pas un calcul, c'est sans doute pas un bon calcul sur un plan, je sais pas, ou financier ou carriériste par exemple, mais bon, si mon objectif c'était de faire du fric, je serais pas écrivain, je serais avocat, politicien ou je sais pas quoi. Donc voilà, je veux dire, on est tellement payé des clopinettes que c'est sûr qu'au moins vous pouvez être sûr que quand on écrit un bouquin, on le fait avec le cœur, parce qu'on le fait pas pour l'argent, ça c'est sûr. Donc voilà. Après le reste, c'est une question d'envie, c'est-à-dire que dans la vie au quotidien, je peux m'ennuyer assez vite parce que j'ai tout le temps besoin d'être stimulé, soit par les gens, par la musique, le cinéma ou par des voyages. Donc c'est vrai que quand je passe 6 mois ou 1 an sur un sujet spécifique, je sais pas, je vais prendre l'exemple, par exemple de Je pourrais prendre lequel. Bon, mais voilà, je vais citer La Voix Secrète. Ça se situe au 19e siècle en France. Louis-Philippe, les attentats, la misère, la SNER, c'est après Vidocq et tout ça. Donc c'est toute une ambiance assez caractéristique. Je me suis régalé à me documenter, à l'écrire. Mais c'est sûr que lorsque je finis un roman comme ça, j'ai envie de passer à autre chose. Non pas parce que je renie ce roman, mais j'ai besoin de renouveler ma curiosité. Donc c'est pour ça que là justement j'enchaînais sur un roman qui sortira en début 2018 chez Chambre Noire sur les Black Panthers, donc les années 60-70. Donc ça sera très politique, très social, il y aura des flingues, il y aura de l'humour, il y aura du funk, du rock, il y aura Woodstock, il y aura tout ça. C'est ma manière à moi de me surprendre déjà. Et puis de surprendre effectivement le lecteur. Mais ça part avant tout d'une volonté personnelle. J'ai vraiment besoin de changer d'univers. Quoi.
Un des fils rouges qu'on peut trouver, même si c'est aussi intéressant de voir comment tu te situes par rapport à ce genre-là, c'est la figure du serial killer. Alors c'est une figure en effet mythique, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Le thriller à la mode en fait beaucoup de publications. Mais je trouve que c'est intéressant comment toi tu l'abordes ce genre-là. Qu'est-ce qui te fascine ? Est-ce que ça te fascine d'abord ? Parce que alors on prend La Voix Secrète qui est autour en effet d'un tueur, un criminel au 19e siècle qui s'appelle Lassner, dont j'ai pris les mémoires pour montrer que voilà, c'était un dandy poète assassin qui a vraiment rédigé ses mémoires pendant sa période de détention à la conciergerie en 1835, donc juste avant d'être guillotiné. Et donc tu imagines ce célèbre escroc enfermé et rédigeant ses mémoires et étant ami de Pierre Allard, du chef de la sûreté de l'époque, qui était le successeur du célèbre Vidocq, il va l'approcher pour, là tu imagines, résoudre une enquête qui touche à un meurtrier qui s'en prend à des jeunes enfants qui sont retrouvés décapités ou démembrés, enfin voilà, et un meurtrier qui s'inspirerait de Lassner, mais qui lui n'a jamais tué d'enfant. voilà, non, pour le coup. Lui, c'était plus des attentats politiques, c'était plus des attentats contre...
Et encore, il y a tout un flou par rapport à ça, on aura l'occasion d'en parler, mais justement, c'est, ta remarque par rapport au regard que je porte sur les tueurs en série, pour le coup, elle me touche, parce que c'est vrai que dès le début, ce que tu as l'air d'avoir bien compris, c'est que je te tutoie en fait depuis
bien
le
sûr,
début.
Bien sûr, mais tout à fait.
Je viens du sud, c'est pour ça.
Et on a le même âge.
Enfin, je viens du sud, je suis né dans le sud, alors on a cette spécificité. Bon, ouais. C'est vrai que tout ce qui, enfin, comment dire ça, bon, je sais pas, il y a tellement de choses à dire. Je considère à tort ou à raison que l'époque dans laquelle on vit, elle est extrêmement vulgaire, soit parce qu'on propulse pas des Nabilas au premier plan et qu'on les présente comme des modèles pour la jeunesse actuelle, soit parce que le traitement des médias, la BFM et tout ça, et d'ailleurs on le voit avec les derniers attentats, ils sont tous là. Tous affamés avec leurs caméras à capter ce qui pourrait se passer.
Enfin, c'est les hyènes, c'est ça.
Tellement... Voilà, exactement. Voilà, je vous invite à lire effectivement
le carnaval des hyènes.
Cette satire sur les médias qui est parue chez Ombre Noire, qui s'intitule effectivement Le carnaval des hyènes. Donc effectivement, je trouve que l'époque est tellement au racolage, à la vulgarité, au sensationnalisme, que quand justement je m'intéresse, enfin je choisis de m'intéresser à une figure du crime, un serial killer, je choisis toujours le serial killer, alors certes qui a tué, qui a traumatisé des gens, peut-être une ville ou tout un pays, mais qui n'a pas été le plus pervers ou celui qui cumulait le plus de perversions. Il y en a eu, surtout aux États-Unis, des mecs qui ont un peu tout fait, qui ont été à la fois... cannibale, nécrophile, pédophile, enfin tout ce que vous voulez. Moi, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ça me fascine pas du tout. Voilà, je vois pas ce qu'il y a de fascinant parce que c'est sordide. Et surtout, je vois pas d'un point de vue d'auteur, je vois pas ce que ça peut m'apporter et donc, par extension, ce que ça peut vous apporter. Moi, ça m'intéresse pas de passer 10 pages à décrire comment un mec va violer le cadavre d'une nana. Je vois pas ce qui est intéressant. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de m'intéresser à ce tueur que j'ai traité justement dans Fils de Sam, qui est mon seul livre qui n'est pas un roman, qui est une enquête racontée comme un roman, mais qui est une enquête avant tout sur Fils de Sam, qui était un tueur qui a traumatisé New York et les États-Unis entre 77 et 78. Et il a traumatisé tout un pays. C'est l'un des tueurs les plus célèbres de toute l'histoire justement des États-Unis. Mais c'est un type qui peut ressembler à plein de gens qu'on connaît ou qui peuvent se trouver dans d'autres pays qui, sous certains côtés, me ressemblent aussi. C'est pour ça que je l'ai traité aussi. Je vous rassure, je vais pas me mettre à tuer. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est typiquement le genre de personne qui a eu une enfance pas malheureuse, une enfance classique avec, oui, des troubles parentaux, mais bon, voilà, des parents qui s'aiment pas, qui se parlent mal, et puis avec un certain passé pesant, mais pas traumatique, hein. C'est juste, voilà, c'est quelqu'un qui est né dans une famille juive, qui a été très marqué par les camps et tout ça, donc il entend parler de la Shoah, de ce genre de trucs, mais bon, il en a été marqué, mais il n'a pas été traumatisé, il n'a pas été violé dans son enfance, il n'a pas, enfin, je veux dire, si vous voulez, il n'y a pas d'antécédents lourds qui ont fait que dès son enfance, ce type-là commençait à avoir des pulsions, à torturer des animaux. Il n'y a pas eu tout ça, ce truc qui est assez récurrent chez beaucoup de tueurs en série américains. Sauf que c'est un mec, physique ingrat, donc il est pas beau, mais il est pas laid non plus. Voilà, il galère pour trouver un boulot, il galère pour rencontrer une nana. Sauf que voilà, c'est les années 70, c'est la décennie schizophrène et traumatique justement des États-Unis. Ça parle du Vietnam, c'est la crise. Il y a des sectes un peu partout. Il se passe tout. Enfin, c'est vraiment l'éclatement socioculturel, politique. C'est juste après le Watergate aussi. Donc, il y a un divorce. Un divorce entre le peuple et les institutions. Il y a énormément de désillusions. Et ce mec-là, qui n'est pas un mauvais gars, croise la route des mauvaises personnes. Il est influençable, il est en manque de famille, d'environnement, et donc il se met à tuer petit à petit par mauvaise rencontre, par récurrence de certaines pulsions, et c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment quelqu'un qui n'était pas prédisposé à tuer, c'est-à-dire qui n'avait pas de pulsion particulière ou de traumatisme particulier, va se retrouver à tuer parce qu'il est dans un moment, dans un environnement qui le gangrène petit à petit. Ça m'intéresse beaucoup. Pour le coup, c'est vrai que lorsque je parle des tueurs, la SNER, pour le coup, est intéressant. La SNER au 19e siècle, c'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il avait tué pour pouvoir être condamné, pour contraindre la société française à le condamner à la guillotine. Son rêve, c'était d'être guillotiné. Il n'a jamais eu peur de ça. Et tout ce qu'il a fait, c'était pour être guillotiné. Il l'a dit, il l'a redit dans la presse, il l'a dit aux gens qui venaient justement le visiter en cellule, dans sa cellule à la conciergerie. Et c'est quelqu'un qui a toujours voulu donner une portée symbolique à ses crimes. Bon, il y a aussi tout un flou autour de ça, parce que c'est quelqu'un qui était très intelligent, qui a écrit des mémoires passionnantes que je vous invite à lire.
Après, il est très célèbre parce qu'il était aussi mis en film. Voilà, le film de Francis Giraud avec Daniel Auteuil dans le rôle titre.
Daniel Auteuil dans le rôle est vraiment exceptionnel. Mmh. Une composition, mais enfin, c'est le Daniel Auteuil de la très grande époque. Et voilà, et tout ça pour dire que ce qui m'intéresse en fait dans la notion de crime, que j'ai traité assez peu en fait. Enfin, si on regarde effectivement, l'année prochaine j'aurai mon 10e bouquin qui paraîtra. Sur 10 bouquins, oui, j'en ai écrit 4 ou on va dire 5 qui traitent du crime ou de la figure du tueur, mais c'est toujours sous un angle sociétal ou historique. Et c'est vrai que la SNER incarne le 19e siècle français. C'est quelqu'un qui a tué alors que bon, il était assez frustré. Hein. Il écrivait, lui aussi, le refus d'éditeur, il sait ce que c'est. Il a croisé la route de beaucoup d'escrocs. Lui, son discours, ça a toujours été de dire j'ai tué pour me révolter face à la société française. Je le soupçonne sous couvert de panache et d'intelligence, parce qu'il était très intelligent. Je le soupçonne aussi d'avoir tué, d'avoir tué parce qu'il avait la flemme aussi justement de travailler, parce que bon, il venait d'un milieu bourgeois, il y avait quand même un petit peu d'argent dans sa famille, et ceux qu'il a tués, c'était des, voilà, enfin, il les a tués dans le dos, il les a poignardés dans le dos, il leur a piqué leur bourse, et il est parti en courant comme un lâche, alors que c'était quelqu'un qui avait du panache, très intelligent, qui était un bisexuel, qui s'assumait comme tel à l'époque, ce qui était très moderne. Qui prêtait des sentiments aux animaux et une intelligence aux animaux, ce qui était considéré comme hérétique à l'époque. Donc vraiment quelqu'un d'avant-gardiste. Donc voilà. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il était très nuancé, très ambigu. Et j'aime beaucoup la nuance et les contradictions, justement. Donc c'est pour ça que j'entretiens ce flou aussi, justement, dans La Voix secrète, parce que je ne suis jamais là, quel que soit le sujet que j'aborde, je ne suis jamais là pour faire l'apologie d'un sujet ou pour le descendre. C'est pas mon boulot, c'est à vous, c'est au lecteur. Moi j'écris, puis après, il se trouve que le bouquin que j'écris ne m'appartient plus, et c'est à vous, effectivement, de distinguer le vrai du faux, savoir ce que vous pensez. C'est ce que j'ai fait dans Fils de Sam. Si j'ai traité cette affaire, c'est qu'il y a énormément de zones de flou dans cette enquête. On a prêté des crimes à David Berkowitz, sauf qu'il se trouve que les témoins d'un témoin à l'autre, il se trouve que le portrait robot change radicalement. Une fois il est brun sans moustache, une fois il est blanc avec moustache. Bon, il se trouve que Berkowitz était brun, dégarni, gros et grand. Mais moi j'aime bien traiter toutes les zones d'ombre. J'aime beaucoup l'idée d'essayer d'être au plus près du flou et de le retranscrire sans jugement, même sur des sujets où, a priori, on peut difficilement rester neutre, sur des sujets viscéraux comme tout ce qui touche à la pédophilie et tout ça. Mais j'aime beaucoup les sujets viscéraux, frontaux, parce que moi, ça m'oblige à une certaine exigence de traitement. Et si je m'y prends bien, après, ce sera à vous de faire le boulot le boulot d'implication, savoir ce que vous pensez du sujet, savoir ce que ça vous évoque, savoir dans quelle mesure ça vous fait réfléchir. J'aime beaucoup ça.
Et pour reparler de la trilogie, la fameuse trilogie anglaise qui t'a valu quelques beaux prix littéraires, notamment à Bonn et ailleurs. Justement, là aussi, tu t'attaques à un monument, presque, double monument, puisque tu es un auteur français, tu oses, si je peux dire, t'attaquer à une période des années 70 dans le Yorkshire qui est déjà... été traité chez Rivage par David Peace dans une célèbre tétralogie que j'ai vendue hier, donc je ne pouvais pas l'amener aujourd'hui, qui s'appelle 1974, 1977, 1980, 1983. Donc c'est David Peace, lui venant de cette région-là, étant né dans ces années-là, ayant été traumatisé, obsédé par ce célèbre éventreur du Yorkshire qui a vraiment existé et qui a terrorisé le nord de l'Angleterre, cette région-là. Alors, comment est-ce que toi, tu t'es positionné, parce que forcément, tu le cites comme étant une des lectures d'un moment d'un de tes personnages. Comment est-ce que... Alors, déjà, tu as commencé par Sale temps pour le pays. Déjà, c'est assez prophétique de ces années-là, puisque justement, ce qui t'intéresse, c'est le point de vue sociologique. C'est pas le point de vue, donc...
Toujours.
C'est pas le point de vue de l'éventreur et de ses méfaits.
C'est le point de vue des enquêteurs. En fait, voilà. C'est parti parce qu'il se trouve que j'ai découvert l'existence de David Peace et ses romans. J'étais aux trois quarts de Sale temps pour le pays. Je me documentais beaucoup sur le nord de l'Angleterre. Voilà. Et j'ai appris qu'un auteur...
Ah, tu ne savais pas à la base ?
Non, je ne savais pas du tout. De toute façon, si je l'avais su dès le début, je n'aurais jamais écrit.
Ah.
Je n'aurais pas osé. Enfin, je veux dire, c'est pas... Donc non, en fait, c'est parti. Alors, j'ai vu le film Zodiac de David Fincher. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Qui pour moi est un modèle d'écriture, un modèle de tout. Hein. Je veux dire, en termes de direction d'acteur, de rythme, de réalisation, film très sobre. Bon, c'est les années 60-70, il y a tout ce que j'aime dedans. Voilà, donc j'ai vu ce film-là et je me suis dit, c'est incroyable. Le film fait 2h30. Pendant 2h30, les enquêteurs, ils enchaînent les fausses pistes. Ils sont limite en dépression parce qu'ils n'avancent pas, ils pataugent. Et pourtant, le film reste palpitant. Alors que concrètement, il ne se passe rien. Le tueur du Zodiac, on ne l'a jamais identifié. Bon, aujourd'hui, il y a des pistes, on pense que... Mais bon, dans les faits, on n'a jamais arrêté, on n'a jamais identifié. Et je suis sorti de ce film en me disant, mais en fait, il faudrait que j'écrive aussi une histoire sur l'échec, c'était ça que je voulais faire, sur l'échec d'une enquête, mais du point de vue des enquêteurs. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne vois pas l'intérêt d'écrire, parce que là, il se trouve que le tueur, effectivement, Peter Sutcliffe, qui a tué des prostituées entre fin 75 et... entre fin 75 et début 81, il a tué 13 femmes, dont essentiellement des prostituées. Voilà, je veux dire, 13 femmes. Donc, j'aurais pu faire le bouquin dans sa tête et puis vous décrire à chaque fois comment il éclate la tête des nanas à coups de marteau, comment il fait ci, comment il fait ça. Je vois pas l'intérêt. Voilà, c'est en position d'auteur, on va dire, pour la première, la deuxième victime. Ce serait d'un point de vue littéraire peut-être intéressant pour des descriptions. Je parle juste d'un point de vue d'écriture. Mais bon, je veux dire, faire ça 13 fois, je vois pas l'intérêt. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de traiter ça du point de vue des enquêteurs, des différents enquêteurs. Il y a eu une cellule de crime qui s'est constituée parce qu'il se trouve que ce tueur avait tué dans plusieurs villes, il avait brouillé les pistes, il y a eu Scotland Yard sur le coup, il a mis tous les flics du nord de l'Angleterre en échec pendant 5-6 ans. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était de traiter la notion d'échec, évidemment l'amertume, et tout ça dans une période où l'Angleterre bascule. Et si j'ai écrit ce roman, c'est parce que, donc 2008, voilà, il se trouve que cette fameuse crise, qui continue encore aujourd'hui, venait vraiment de commencer. Et donc j'en entendais parler beaucoup, ça m'a beaucoup intéressé, et je me suis dit, plutôt que de faire un bouquin sur cette crise qui débute, et ce qu'on voit tous au niveau du pouvoir d'achat, là, moi j'habite à Paris, bon ben voilà, j'étais au chômage à l'époque, 420 euros par mois avec le RSA, bon ben avec un loyer 700 euros, bon ben comment on fait quoi, quand on veut se payer un café, quand on va aller en soirée, quand il y a un anniversaire, voilà. Et bon, ben voilà, ma situation, c'était la situation de plein de gens que je connais, que vous connaissez aussi. Donc plutôt que de parler de cette crise-là, j'ai voulu m'intéresser aux origines de cette crise, qui, à mon sens, commence après justement le choc pétrolier, 73-74. Donc, bon, la France, l'Angleterre et tout ça. Il faut savoir que l'Angleterre, dans les années 70, a été l'un des pays les plus durement touchés par cette crise. Dès que j'ai commencé à me documenter, j'ai appris qu'à l'époque, notamment dans le nord de l'Angleterre, ceux qui fumaient achetaient les cigarettes au détail. Ça, c'est le premier élément que j'ai appris, qui m'a vraiment marqué, parce que quand on en est à acheter une cigarette au détail, c'est que c'est vraiment chaud. Quand on stocke du charbon dans sa baignoire, quand on commence à se prostituer pour nourrir ses gamins, là on est dans la vraie crise du quotidien qui touche à l'alimentation, l'électricité et tout ça. Donc j'ai voulu parler de tout ça, et il y a cette transition avec Thatcher, donc Thatcher qui arrive donc à remonter effectivement l'économie du pays de l'Angleterre, et ce qui s'est fait. Hein. C'est vrai que l'Angleterre s'est sortie de cette crise. Mais par contre, d'un point de vue humain,
social, oui.
D'un point de vue social, c'était terrible. On sait très bien les mineurs, les chômeurs, elle a coupé toutes les aides pour les handicapés, tout ça. On sait très bien comment ça s'est passé. Et donc, l'Angleterre, dans les années 80, est l'un des tout premiers pays à s'être ouvert au libéralisme. Il y avait Thatcher en Angleterre, Berlusconi en Italie, il y avait Reagan aux États-Unis. Nous, voilà, c'est un gouvernement socialiste qui nous a ouvert au libéralisme, et on voit très bien aujourd'hui justement ce qui nous a conduit justement à la crise d'aujourd'hui, cet ultra-libéralisme, comment on le qualifie. Donc c'est pour ça que j'ai voulu remonter à l'origine de la crise qui nous touche aujourd'hui, et aux origines de cet ultra-libéralisme, ce que je fais notamment justement dans La Voix Secrète, justement avec le travail à la chaîne au 19e siècle, et voilà, le taylorisme et tout ça. Donc tout ça pour dire que donc j'arrive aux trois quarts de Saltan pour le pays, je me documente et j'apprends qu'un auteur anglais natif de la région a déjà écrit 4 bouquins visiblement formidables que j'avais pas encore lus, consacrés à cette affaire du tueur. Donc je l'ai assez mal vécu sur le moment, je me suis dit j'ai bossé pour rien, c'est terrible et tout. Et puis je me suis dit je vais finir mon bouquin, je lirai les livres de David Peace, mais je les lirai après avoir écrit Saltan, parce que je ne voulais surtout pas être influencé. Et d'ailleurs, quand je les ai lus, j'ai évidemment été très marqué, fasciné. Moi, mon préféré, c'est 77, avec cette fin. Je ne vais pas l'évoquer, mais avec le... Voilà.
C'est l'écriture aussi.
L'écriture qui est hyper organique, qui est très, très hachée, qui est très, très, très viscérale. Et en même temps, ça m'a rassuré, parce que la vision de David Peace est une vision, surtout du point de vue des flics, est une vision très, très, très malsaine, très poisseuse, avec des flics qui sont violents, qui sont racistes, misogynes, corrompus jusqu'à l'os. Alors bon, moi j'évoque un scandale de corruption qui s'est passé à l'époque, mais justement ce qui m'intéressait dans Saltan, c'était d'avoir des flics qui sont humains, qui font au mieux ce qui s'est passé à l'époque. Hein. Les enquêteurs, pour le coup, étaient, ils étaient très qualifiés, ils ont fait un super boulot, sauf que ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas, ils n'avaient pas les fax, ils avaient des ordinateurs qui fonctionnaient une fois sur deux. Il faut savoir que cette enquête aussi a pâti du basculement politique entre les travaillistes et les conservateurs. Finalement, j'ai été rassuré. Je me suis dit, lui, il a une vision très, très dure. Moi, je veux au contraire avoir un traitement très humain, très touchant, parce que le contexte est déjà dur. Le contexte de crise ambiante et tout ça. Donc j'ai envoyé ça à Rivage avec une lettre que je me souviendrai toujours de ce que j'ai écrit. J'ai dit bonjour, j'adore ce que vous publiez, Elroy et compagnie. Je sais que vous avez publié la tétralogie de David Peace. Je ne me fais aucune illusion, mais si je ne vous contacte jamais, je le regretterai sur mon lit de mort. Donc je tente le coup, je me fais pas d'illusion et voilà. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de fil. Oui, on a beaucoup aimé votre bouquin. Voyons-nous et tout. Voilà, ce qui était vraiment totalement inespéré pour moi. Voilà. Et forcément, David Peace étant publié chez Rivage, j'ai eu l'occasion effectivement de le croiser. Je lui ai envoyé mes bouquins à chaque fois. Je lui ai gravé la playlist aussi des musiques, parce que je fais toujours une playlist musicale à chacun de mes romans. Et voilà. Et on a pu échanger sur certaines choses. Il a pu m'aider sur 2-3 bricoles, vraiment des histoires de procédures policières que j'arrivais pas à trouver sur Internet ou dans des livres. Donc voilà.
Et après, donc, ça t'a donné après l'impulsion aussi pour écrire une sorte de suite, même s'ils peuvent se lire indépendamment, même si c'est mieux, je trouve, de les lire vraiment dans l'ordre oui, voulu. C'est, quoi. C'est mieux pour avoir
surtout
vraiment
la vision
d'ensemble. Je retrouvais une, je voulais citer juste le début en fait, de Saltan pour le pays, l'Incipit, donc vraiment de la trilogie. Tu parles d'un chaos à l'image d'une société ébranlée par 1,5 million de chômeurs, d'interminables grèves de mineurs et d'ouvriers, des émeutes raciales, ainsi que des attentats perpétrés par l'IRA. Bref, une Angleterre loin, bien loin de ses 60s euphoriques et de son swinging London. Donc, c'est pour montrer donc vraiment que tu vas à l'encontre de tous les clichés sur cette période-là qu'on dit souvent euphorique, en effet, hein, cette période des années 60 de libération, mais en même temps, voilà, tu en montes.
C'est une période qui a existé, hein, mais c'est vrai que j'aime bien tout ce qui relève de la désacralisation. Voilà. Là, pour le coup, on est vraiment.
Comme par rapport au serial killer.
Toujours. Mmh. Ben voilà. Mmh. Alors, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est dans une époque du sacré, mais voilà, de l'ultra sacré. On nous présente des hommes politiques ou des femmes politiques comme des sauveurs, et on nous parle d'un musicien ou d'un chanteur qui serait le nouveau Gainsbourg, ou tel écrivain qui serait le nouveau machin. Tout ça, ça m'insupporte. Je veux dire, on peut être très impressionné ou séduit par tel discours ou tel bouquin, tel disque. Et moi, je suis le premier, je suis un passionné, donc j'adore la musique, j'adore le cinéma, j'adore la lecture, mais je n'aime pas le sacré. C'est quelque chose qui, je ne vais pas dire que ça me fait peur, mais voilà, enfin, il n'y a pas. Enfin, je pense qu'il n'y a pas à sacraliser les gens et les choses. Moi, j'aime bien tout désacraliser. Fils de Sam, si on tape tueur en Syrie, États-Unis, on va tomber sur Ted Bundy, Schaeffer et fils de Sam, Berkowitz. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir derrière, c'est le parcours, c'est d'essayer de comprendre comment quelqu'un va basculer alors que dans l'absolu, il n'était pas destiné à devenir ça. Qu'est-ce qui fait que Lassner est aussi célèbre ? Eh ben, moi, je me suis intéressé à Lassner. J'ai envie de comprendre comment un fils de bourgeois qui grandit, bon, certes, il y a eu des histoires avec les jésuites, avec son père et tout ça, mais bon, qui n'a pas eu de problème avec sa famille à une époque où c'était ultra conservateur en France au 19e siècle, donc voilà. Comment un type comme ça, aussi intelligent, aussi fin d'esprit, qui avait la classe, qui était beau comme un dieu, tout ça, comment ce mec-là va se retrouver à poignarder des gens dans le dos ou à crever 5 ou 6 fois les yeux d'un reseller pour lui piquer quelques pièces. Ça m'intéresse de comprendre. Pareil, par rapport au tueur, effectivement, dans le nord de l'Angleterre. Peter Sutcliffe, oui, bon, il a tué des femmes, il avait sans doute un problème, enfin, j'imagine, hein, il n'a pas fait ça, il n'était pas en vacances, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'un père de famille qui a son boulot, sa femme, et des gamins avec lesquels ça se passe bien, qu'est-ce qui fait que ce mec-là va tuer 13 femmes en 6 ans ? J'aime comprendre les choses. C'est pour ça que j'écris sur les médias, c'est pour ça que j'ai fait Bienvenue à Cotton's Warwick aussi, qui est un bouquin sur la solitude, sur le repli, sur l'abandon. Qu'est-ce qui fait que les gens basculent au bout d'un moment ? Et si je m'intéresse à ça, c'est qu'effectivement, au début, je n'avais pas du tout prévu de faire une trilogie sur l'Angleterre. On parlait d'étiquette tout à l'heure. Je pourrais, pour des raisons de com, comme on dit aujourd'hui, dire oui, dès le début, j'avais tout prévu, ma trilogie, un peu comme George Lucas qui, dès le début, s'est levé un matin, s'est dit ouais, je vais faire une trilogie, ça s'appellera Star Wars et tout ça. Moi, je dis chapeau parce que moi, j'avais pas du tout prévu de faire une trilogie. Il se trouve que quand j'écrivais Saltan, je travaillais dans un cinéma. Enfin, là, j'ai retrouvé un travail après, et j'ai travaillé dans un cinéma, et j'avais rencontré un spectateur qui est anglais natif du Yorkshire, et qui vivait en France depuis un moment. Donc je lui ai dit, ah ben c'est formidable, je suis en train d'écrire un livre sur cette région, est-ce que je pourrais vous le passer, histoire que vous me disiez si je suis à côté de la plaque, si on y croit, si. Voilà. Donc il a lu, bon voilà, il m'a dit non, c'est très bien, c'est bien documenté et tout ça. Et on est resté en contact. Et voilà, donc il se trouve que voilà, donc je sors Saltan pour le pays, je passe à autre chose entre temps. Et il revient donc un jour au cinéma et me dit ah ben voilà, j'ai pensé à toi. Figure-toi qu'il s'est passé à Bradford, donc Bradford qui est une ville du nord de l'Angleterre qui a une demi-heure de train justement de Leeds, une ville dans laquelle ce tueur a tué dans les années 70. Et il m'a dit ben voilà, figure-toi qu'un étudiant en criminologie a fait sa thèse sur ce tueur, sur Peter Sutcliffe. Et en fait, il est passé de la curiosité à la fascination et il s'est mis à tuer à son tour. Donc c'est un type qu'on a, si vous voulez, que les médias ont qualifié de nouvel éventreur. C'est-à-dire que 25-30 ans après, il y a eu un nouveau traumatisme dans cette même région, même profil de victime. Voilà. Bon, il l'est tué à l'arbalète, hein, c'est, voilà. Mais voilà. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable. C'est comme si moi, justement, à force de me documenter pour écrire le premier, ben, je m'étais mis à tuer parce que je m'étais intéressé à l'affaire et tout ça. Et forcément, voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas de parler du tueur, c'est de dire qu'est-ce qui fait que des gens, encore une fois, hein, qui n'ont pas vécu tel ou tel traumatisme, vont se mettre à tuer. Ben voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait la suite. Et forcément, ben, j'ai fait un deuxième volet, puis ça m'a donné d'autres pistes aussi pour faire un troisième volet et retomber sur mes pattes, quoi.
Dans Adieu demain, justement, où tu parles notamment autour de la figure donc de Clarence Cooper, qui est un jeune inspecteur et qui va justement basculer lui-même parce qu'il va être un flic espion, il va être infiltré dans un groupe de thérapie et pour approcher. Tenter d'approcher, il va se faire passer lui-même pour un arachnophobe. Alors si vous avez peur des araignées comme moi, ne lisez pas. Enfin, Adieu demain. Enfin, si, lisez-le, mais c'est vrai dépend. Que c'est assez bluffant parce que justement c'est le personnage du tueur, enfin celui qui est considéré ou plutôt suspecté est arachnophobe. Donc Clarence va se faire passer lui-même pour arachnophobe. Et il va tomber d'une sorte d'engrenage. Donc là aussi, c'est le basculement à l'image de la société de ce personnage là aussi. Donc ça, ça t'est venu de fil en aiguille ou est-ce que tu
l'avais... Moi, je suis un arachnophobe. Hein, donc,
D'accord.
C'est mon premier bouquin le plus personnel.
Ah, d'accord.
Et notamment ce chapitre où Peter, je crois, il escalade son échelle pour aller sur le lit du dessus, sur un lit superposé, sauf qu'il y a une énorme araignée sur le mur et il est tétanisé. Voilà. Moi, j'ai connu ça en colo quand j'avais 4 ans et je tenais absolument à faire ce bouquin. D'ailleurs, son accident de plongée, c'est ce qui m'est arrivé. Sauf que moi, on m'a retenu en bas pour pas que je fasse une surpression pulmonaire. Mais oui, c'est pareil. Ce qui m'intéresse encore une fois, c'est ce qui relève du basculement. Et donc l'idée de cette trilogie, c'est de couvrir 40 ans de vie politique et sociale en Angleterre. On commence à Thatcher, on finit sur Cameron, et on voit qu'au final, à peu de choses près, si on enlève les pattes d'Eff et les moustaches à la Frank Zappa, en gros, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est toujours les chômeurs qui galèrent, c'est toujours les femmes qui galèrent pour nourrir leurs gamins, ou les mineurs qui se retrouvent au chômage. Enfin, si tant est qu'il y a encore des mines ouvertes, il y en a encore quelques-unes, mais c'est quand même très très dur.
Dans Adieu demain, à la fin, c'est le 11 septembre 2001.
Oui, c'est ça.
Et la fin de Justice pour tous, c'est qui clôt en fait, c'est le décès de Thatcher, quoi. Enfin.
Ah ouais, bien sûr, c'est ça. Mais voilà, qui boucle une période et en même temps, on voit aujourd'hui, hein, on voit des politiciens, pas qu'en France, qui se réclament de Thatcher. Bon, c'est pour ça que voilà, moi je suis passionné d'histoire parce que j'aime bien rappeler les choses. Je suis pas là pour faire la leçon aux gens, je suis pas là pour faire du prosélytisme, alors vraiment pas du tout. Je supporte pas ça quand je lis un bouquin ou quand j'arrive dans une soirée avec des gens essayent de me convaincre qu'il faudrait voter machin ou truc, voilà. C'est non, par contre, je fais un travail qui me paraît important, c'est par exemple lorsque je tombe sur BFM TV quand je vois comment il s'appelle cet éditorialiste Éric Brunet, qui est pas bête en plus, hein, qui fait partie de ces gens. Évidemment, je partage pas du tout leurs opinions, que ce soit des gens comme Zemmour ou d'autres. Et voilà, je les mets pas sur un même pied d'égalité par rapport à ce qu'ils pensent. Mais je veux dire, bon, voilà, il y a des gens qui sont très intelligents, qui ont un bagage culturel assez important. Mais voilà, bon, il se trouve que voilà, je suis pas d'accord avec eux. Et bon, c'est pas grave, on a le droit de pas être d'accord. Mais par contre, lorsque je vois ce mec Éric Brunet sur BFM TV pendant toutes les manifs contre la loi travail dire oui, alors aujourd'hui. La France se targue d'être anti-libérale, mais il faut quand même rappeler qu'au XIXe siècle, la France était un pays vraiment à la pointe du libéralisme et tout ça. Ben oui, ben forcément, ça me donne envie d'écrire La Voix secrète, parce qu'effectivement, au XIXe siècle, la France était un pays très libéral. Ben oui, c'est sûr, on faisait bosser les mecs, les nanas, les gamins 10 heures par jour. Donc voilà. Donc et si en fait, il faut distinguer deux choses. C'est sûr que un pays fonctionne par son économie, ce qui est vraiment essentiel, mais par son peuple aussi, ce qui fait le quotidien. Et c'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est ça. Oui. Donc voilà, donc c'est sûr que voilà, enfin, les deux sont toujours en opposition. Et c'est pour ça que dans Saletan, j'ai une phrase où je dis qu'au bout d'un moment, contre toute attente, les réformes de Thatcher ont permis au Royaume-Uni de se relever sur le plan économique, ce qui est vrai. Et aujourd'hui, tous les économistes s'accordent à le dire. Mais dans la même phrase, je dis que ça s'est fait au détriment du peuple. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut pas, enfin, c'est pas possible. Il y a des réformes drastiques, donc le pays se relève. Mais bon, forcément, qui trinque, voilà, c'est vous, c'est moi, c'est voilà. Donc voilà, moi, c'est ça qui me paraissait intéressant, effectivement, de préciser. Et voilà, bon, là, je prends cet exemple d'Éric Brunet parce que quand j'ai vu ça, je me dis, c'est quand même fou, parce que je veux dire, ce mec-là pourrait dire qu'effectivement, la France au XIXe siècle. Moi, ce qui m'intéressait à travers La Voix secrète, bon, il y a cette figure de Lassner et tout ça, mais effectivement, quand je précise que j'écris de noir, quand je précise que j'écris du noir et que je ne fais pas que du polar, c'est qu'en fait, je pars toujours d'un sujet prétexte. Là, le prétexte, c'est Lassner et c'est une enquête sur un tueur d'enfants. Mais moi, ça me sert de base pour explorer le 19e siècle en France. Parce que c'est le moment où la France se modernise, où on commence à digérer justement l'héritage de la Révolution française. On voit que tous les privilèges n'ont pas forcément disparu. On voit qu'elle a été récupérée par la bourgeoisie. Voilà. On voit que Louis-Philippe est un monarque, on va dire populaire et populiste, pour reprendre ce mot qui est très utilisé aujourd'hui, un peu galvaudé. Voilà. Donc on est dans une France qui est à la fois très tourmentée parce qu'il y a des attentats contre Louis-Philippe, il y a beaucoup de misère. Et en même temps, il y a des vraies réformes qui sont faites. Par exemple, voilà, il faut savoir que la population de Paris double. Donc on élargit les rues, on fait des travaux. Bon, bien sûr, voilà, c'est le moment où on commence à repousser les pauvres en périphérie. Donc c'est pareil, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer de plus en plus avec le projet du Grand Paris, où en étant Paris, ce qui est très bien, mais ça oblige les gens qui vivent avec 900 euros par mois au moins à habiter encore plus loin, parce que les loyers augmentent de plus en plus, pas qu'à Paris. Hein. Je sais que Bordeaux s'aligne, Toulouse aussi, Marseille, tout ça. Donc voilà, donc ça m'intéressait de parler de cette société en mutation. Parce que les bases, disons que les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui, de la France d'aujourd'hui, oui, remontent un peu à Napoléon, Louis-Philippe. On est vraiment dans ce truc-là, c'est-à-dire avec les premiers flux migratoires conséquents, parce qu'il y a plein de révolutions en Europe. Donc il y a des Belges qui arrivent, il y a des Autrichiens, il y a des Polonais, il y a des Italiens. Donc c'est cette France populaire, multiculturelle, elle commence vraiment. Concrètement, je dis concrètement dans les chiffres, parce qu'on a commencé à recenser cette population-là à l'époque. Voilà. Donc moi, ça m'intéresse de traiter, sous couvert d'enquête ou de match de foot, de traiter l'arrière-plan historique, politique, et voilà.
Donc d'une certaine façon, en fait, le crime ou la figure du criminel est une forme de creuset, de prétexte, donc de presque de symptômes, donc de cette société malade à l'agonie, en fait, que ce soit la France de 1835, que ce soit la France
ou l'Amérique des années 70,
ou la France de 1980 avec les premières désillusions suite à l'élection de Mitterrand, du socialisme. Donc
j'ai grandi dans ça. Hein. Moi, je viens d'une famille très à gauche et j'ai toujours baigné dans cette amertume et on a été trahi, on y a cru et machin. Bon, mais voilà, c'est un truc qui me parle beaucoup. Et je pense que ma génération, qui est celle de Marin Ledin, qui est celle de, bon là, bien sûr, il me manque des noms, mais
Nicolas Mathieu.
Ben voilà, Nicolas Mathieu, Benoît Mainville, Marie Vindy, enfin tous les noms effectivement de la scène.
Les étoiles montantes du polar.
Voilà. Hein. On dit ça comme ça. Bon, certains ont commencé avant moi. Marin, il écrit depuis un moment aussi. Voilà. Je pense qu'on est caractérisé, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une génération particulière? Bon, moi, je suis personne pour dire ça. Je sais pas, j'en sais rien. Ce que je vois, effectivement, pour avoir lu certains effectivement de leurs romans, c'est que si on devait trouver peut-être deux notions qui peuvent caractériser les auteurs français du noir qui aujourd'hui ont entre 30 et 40, c'est qu'on est à la fois dans quelque chose de très volontariste. On affirme beaucoup, on a des choses à défendre, et en même temps, j'ai l'impression de sentir une certaine amertume latente entre les lignes. Et bon, mais je pense que c'est un peu justement lié à notre génération. Voilà. On a un peu grandi dans une période d'après-crise, il y a eu de l'espoir. Et puis finalement, on a vu ce qui s'est passé. Et en même temps, on ne peut pas dire non plus qu'on a mangé des cailloux et qu'on était tout nu ou en haillons dans des ruines et tout ça. Là, je veux dire, on n'a pas grandi non plus dans ces trucs-là. Mais, donc voilà, ben, c'est un entre-deux. Et je pense que, en tout cas, c'est, en ce qui me concerne, cet entre-deux me caractérise beaucoup. Dans mes bouquins, il y a beaucoup d'humour, il y a de la dureté aussi. Oui. Il n'y a jamais une goutte de sang. Mais par contre, il y a quand même des choses qui sont assez dures. Voilà, et puis il y a de la musique, c'est rythmé, et en même temps, il y a des choses très, très sèches. Voilà. Voilà, ben, j'aime beaucoup ce ping-pong. Pour moi, c'est en termes d'écriture, ça, je m'éclate, et puis j'espère que ça vous éclatera, vous aussi.
C'est vrai que sur le côté désabusé, tu nous citais par rapport à tes coups de cœur, Philippe Muret, moi que j'aime beaucoup aussi, le côté désabusé, et en même temps, c'est une plume extraordinaire, en même temps, avec beaucoup d'humour aussi.
Et on n'en parle jamais de l'humour de Philippe Muret, sous prétexte qu'il était de droite, ça c'est un éternel problème.
Après, voilà, il faut lire aussi Minimum Respect, c'est ces poèmes très irrespectueux, mais en même temps, mais là tu citais Moderne contre Moderne, par exemple, par rapport au regard sur la société de spectacle, c'est de surconsommation. Oui. Voilà, donc tu citais par exemple celui-ci, tu citais aussi le Fable de La Fontaine dans un autre genre, tu citais Nietzsche aussi. Donc voilà, on peut pas non plus tous les citer. Tu citais bien sûr James Ellroy, Le Grand Nulle Part. Pourquoi celui-là particulièrement, de James Ellroy? C'est le premier que tu as lu?
Alors non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai commencé par le Dahlia Noir. Je pense que, bon, de toute façon, c'est toujours ça. On va toujours vers ce qui nous ressemble, que ce soit les individus ou les bouquins ou autre chose. Mais c'est celui qui m'a le plus parlé parce qu'il combine l'aspect politique, la reconstitution historique. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans celui-ci, notamment à travers ce personnage. Je vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui l'ont pas lu, mais il y a un personnage qui est homosexuel. Je sais que ça représente tellement. Bon, je vais pas dire ce que je vis parce que j'arriverai jamais à ce niveau. Et c'est pas de la fausse modestie ou c'est pas ça. C'est que j'ai tellement conscience de mes limites que de toute façon. Mais c'est juste que, voilà, je pars du principe que quand les gens ils sont prêts à claquer 15-20 euros pour votre bouquin, surtout justement quand on a conscience du contexte, 20 euros c'est pas rien aujourd'hui. Hein. C'est un resto, c'est un cadeau pour quelqu'un qu'on aime, c'est deux places de cinéma, j'ai bossé dans un cinéma, il se trouve que 10,50 € la place, c'est pas rien. Il faut dire les choses, quoi. C'est-à-dire que quand les gens se déplacent pour claquer 20 euros pour votre bouquin, il faut mettre le paquet. Donc on met le paquet dans le traitement, dans l'implication, et en fonction de certains sujets, si effectivement un sujet peut amener vers des pistes émotionnelles, sociologiques, historique, musical, moi je me régale parce que je peux, parce que déjà d'un point de vue personnel, je peux traiter plein d'aspects, c'est ce que je fais à travers Les Panthères en ce moment, et je me suis jamais autant éclaté à écrire un roman parce qu'il y a tout, il y a l'époque, il y a la musique, il y a l'humour, c'est dur, c'est violent, il y a de la politique, c'est fou, moi j'aime ça, c'est un vrai challenge d'écriture. Et en même temps, je me dis, c'est cette expression, il se trouve que je l'aime pas trop, mais bon, elle résume bien les choses. J'espère que les gens, ils en auront pour leur argent, si vous voulez, parce que j'ai vraiment envie de mettre le paquet, que le bouquin soit complet, qu'il soit riche, qu'il vous emmène partout. Et c'est ce que je fais d'ailleurs à travers tous mes romans. Mmh. J'aime bien, dans celui-ci, dans Coulton's Warwick.
Dans le bouche australien.
Dans l'Outback. Ça parle de solitude, ça parle beaucoup d'alcool, et en même temps il y a de l'action, il y a de la folie, c'est très sombre, il peut y avoir des choses très violentes, il y a aussi de l'humour, et j'aime ça parce que c'est ma vision de la vie, parce que la vie elle est tout à la fois. Alors bon, et on va pas se mentir, il y a des moments où il se passe rien dans la vie, hein. Voilà, c'est pour ça que j'écris, et encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, moi je peux m'ennuyer très vite, c'est vrai que des fois il y a des journées, si on bouscule pas les choses, il se passe rien. Il n'y a pas toujours un ami qui débarque, on ne tombe pas tout le temps amoureux, on ne se fait pas tout le temps une super bouffe, où on ne voit pas toujours un chef-d'œuvre au cinéma. Mais bon, les choses se provoquent aussi. Ben, moi, je les provoque en écrivant, et j'aime quand il se passe plein de choses, la musique et l'humour, et tout, j'aime ça.
Ouais, justement, bienvenue à Coulton's Warwick, donc qui détonne, mais en même temps, pas tellement, puisque, mais c'est vrai que tu y mets beaucoup de cette écriture, en effet, jubilatoire, quoi, en même temps, totalement noire, féroce, déjantée.
C'est le seul que j'ai
fait aussi radical. Voilà. Donc c'est vrai qu'il surprend. Il est pas facile non plus à lire ou même à conseiller, mais c'est vrai qu'il est, il ressemble plus à ce que tu aimes faire, et justement, Ombre Noire. Enfin, l'éditeur aussi te permet, ça aussi c'est un éditeur qui te fait confiance. Et justement, dans celui-ci, tu imagines donc, pour en parler, un bled perdu au fin fond, donc, qui s'appelle Cotton's Warwick, avec 16 personnages qui survivent du moins dans cet enfer caniculaire, plus de 50 degrés, avec donc des Warwickiens descendants, alors je l'ai noté, descendants de bagnères et d'aborigènes violés jusqu'au sang. Les Warwickiens sont fiers de leurs origines comme de leur consanguinité, une sorte de personnage frics comme ça, totalement à la Harry Cruz, totalement barré, avec un ranger véreux, un ranger queen, et 16 hommes, et la seule femme du village, qui est une sorte de elle ne sera pas la seule de l'histoire, mais c'est la... Voilà. Comment t'es venue cette idée totalement folle de cette imagination au fin fond donc du désert australien, un peu, on pense à Douglas Kennedy,
à Cul-de-sac,
ça c'est forcément une référence.
Cinq matins de trop aussi. C'est...
L'histoire en elle-même.
L'histoire en elle-même, en fait, c'est pareil, c'est que déjà je voulais me renouveler, donc je sais plus ce que j'avais écrit avant, mais toujours est-il que ce à quoi je tiens depuis le début, et ce qui revient à chaque fois que je fais des rencontres avec les libraires ou les lecteurs, c'est qu'effectivement il y a toujours beaucoup d'humanité dans mes romans, les personnages communiquent, ce qui se passe pas toujours dans la vie, les gens arrivent à se comprendre, même si c'est difficile, j'aime bien ça, il y a de l'amour, il y a de l'amitié... Et je revendique ça totalement. Et en même temps, j'ai eu envie d'être radical pour une fois. C'est-à-dire qu'effectivement, moi qui suis jamais dans une surenchère de violence... Le roman n'est pas dans la surenchère. Mais j'avais vraiment envie, pour une fois, de faire un livre sans humanité, sans humour, avec des gens qui sont rustres, mais pareil, qui le sont devenus. Pourquoi ils le sont devenus? Est-ce qu'ils n'ont pas été lâchés par le gouvernement? Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont considérés comme des ploucs? Est-ce que c'est pas parce qu'ils vivent aussi dans un environnement qui est rude, on peut rien cultiver, où il n'y a pas d'eau, il se passe rien, où il n'y a pas d'avenir? Donc c'est pareil, ça m'intéresse beaucoup, sans excuser mes personnages, hein. Parce que franchement, c'est très difficile, honnêtement, de trouver des excuses à mes personnages dans Cotton's Warwick. Mais on en revient toujours au même truc. Il se trouve que des fois, des gens vont me dire « Ah oui, c'est quand même très différent de ce que vous avez écrit. » Alors, je comprends ce que veulent dire certains lecteurs. Dans le traitement, c'est différent, dans le cadre aussi. Mais ce qui m'intéressait, c'était de parler des gens dont on ne parle jamais. C'est comme quand je parle du nord de l'Angleterre. Qui parle des mineurs dans ces régions-là? Que ce soit le nord de l'Angleterre ou le nord de la France, d'ailleurs. Qui en parle? Est-ce que les médias en parlent? Ou alors ils en parlent quand il va y avoir une grève et qu'il va y avoir une chemise arrachée, que ça va faire un tollé à la con et tout ça. Mais je veux dire, on ne parle pas du quotidien de ces gens-là. On ne parle pas du quotidien des gens qui sont dans les quartiers nord de Marseille, où j'ai grandi, par exemple. Ça peut être aussi, effectivement, les conditions de travail des gens au 19e siècle, en France ou en Europe. Et c'est pareil, qui parle de ces gens qui vivent dans des villages qui existent en Angleterre? Ce village, je l'ai inventé, Cotton's Warwick, mais je l'ai situé à une quinzaine de miles de villages qui existent et qui sont similaires, sur le plan spatial, pas sur le plan sociologique. De villages, c'est des trucs dans un trou perdu, il y a un village, cinq baraquements, et il y a 10 habitants. Qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là? Moi, ça m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que fait Rihanna, ce que fait telle actrice dans telle série de merde, ou Nabila et tout ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vivent ces gens-là? Comment ils font pour tenir? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se sont pas encore suicidés? Qu'est-ce qui les tient? Alors, il y a l'alcool, il y a les liens, on va dire d'amitié ou d'intérêt. Mais c'est ça qui m'intéresse. Et justement, partir... De ces gens qui sont niés par l'humanité, qui vivent en marge de la civilisation, mais de voir que même chez eux, il peut se passer beaucoup de choses. Après, je ne vous cache pas que ce beaucoup de choses, entre guillemets, et c'est des choses très très sombres. Mais ça m'intéressait de parler effectivement de ces gens dont on ne parle jamais. Et donc, comment ils font pour tenir? Donc, ça passe par des trafics, ça passe par des intérêts. Voilà, tu évoquais cette femme dans le village. Il n'y a qu'une Karen. Femme dans le village, Karen, voilà, parce que toutes les autres femmes se sont suicidées de désespoir et de détresse. Il y en a une qui est là, qui tient le pub. Personne ne la touche, non pas parce qu'ils n'ont pas envie. Évidemment, ils ont tous envie de la violer. Mais le shérif du village, qui est un peu shérif, prêcheur, maire, il fait un peu tout.
Oui.
Voilà. Queen, il interdit à tout le monde justement de la toucher parce qu'il se dit que si quelqu'un la viole, tout le monde va la violer et le village va exploser. Or, il s'accroche à son pouvoir, il veut que le village subsiste. Donc, si vous voulez, c'est très ambigu parce qu'il est à la fois, bon, disons qu'il la protège. Mais bon, c'est un répit qu'on lui accorde, hein. c'est pas du respect, c'est-à-dire que cette femme, personne ne lui parle. Elle est là pour nettoyer les chiottes, essuyer la pisse par terre et puis faire la bouffe, quoi. Donc ça m'intéressait de faire de Queen une figure qui est protectrice dans les faits, mais qui le fait pas par bonté ou par respect, il le fait par intérêt. Voilà, sauf que bien sûr, évidemment, tout ça explose. C'est l'avantage quand on écrit du noir, c'est qu'on plante un décor avec un semblant d'équilibre, avec par exemple des flics qui sont là, qui ont du métier, puis très vite tout ça s'écroule, ou alors dans un village qui tient depuis des années, puis ça va s'écrouler aussi. Ou par exemple, je dis noir, une super équipe de foot, merde, on n'avait pas prévu ce qui se passe et c'est le drame. Voilà. Mais voilà.
Et donc justement dans Bienvenue à Cotton Soir Week, tu parles aussi de Hemingway, qui est une des lectures, donc c'est étonnant. En même temps, tu parles donc de tout le temps de musique dans tes livres, donc c'est vrai que c'est extrêmement rythmé, donc parce que tu cites des passages musicaux sans cesse.
J'adore la musique, c'est ce que j'écoute.
Et donc c'est justement ce qui atténue un petit peu la violence que tu décris, même si en effet ce n'est pas une violence ni arbitraire ni une violence ni gratuite. Ni une violence pure, quoi. Enfin voilà, tu ne décris jamais de scène à proprement parler abominable ou de tuerie, mais voilà, il y a toujours les références cinématographiques, musicales. Alors j'en ai porté quelques-unes, ce que j'ai trouvé dans notre rayon DVD. Donc tu parles de Révélation de Michael Mann, tu parles du Prix du danger d'Yves Boisset, l'ai trouvé aussi, tu parles de l'Opening Night de John Cassavetes, tu parles de l'Armée des ombres de Jean-Pierre Melville.
C'est l'Armée des ombres, ben justement, alors ça c'est l'Armée des ombres, c'est désacralisation totale. Enfin, je te laisse finir et j'enchaîne.
Non, vas-y, parce que je voulais citer The Wall de Pink Floyd, enfin d'Alan Barker et L'Exorciste, bien sûr, qu'on aura compris.
C'est un modèle de mise en scène et de rythme et d'émotion
que les personnages vont voir dans la trilogie. Donc justement, ce mélange des genres totalement voulu. Là aussi, comment tu le travailles après en parler, parce que tu as aussi pas mal de parties dialoguées, tu as pas mal de... Voilà, il y a un rythme extrêmement frénétique, extrêmement nerveux de ton écriture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton style? Comment est-ce que tu fais un plan? Est-ce que tu fais beaucoup de brouillon? Est-ce que...
Alors, je fais un plan... voilà, bon là, il y a beaucoup de choses.
D'abord, les références, si tu veux, les références.
Les références, en fait, le truc, c'est que ce qui est assez marrant, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à démarcher avec mes premiers bouquins, qui n'étaient pas bons, si j'ai pas été publié à l'époque, c'est pas pour rien. Il ne s'agit pas de dire les éditeurs avaient rien compris, j'étais un génie. Non, c'est que mes bouquins n'étaient pas du tout maîtrisés. Mais... Ce qui revenait souvent, c'était oui, on sent que vous vous obligez à mettre telle référence, machin. Bon, il a fallu, ça a pris du temps. Maintenant, je vois que dans le regard des lecteurs, des blogueurs ou des journalistes, je pense que la plupart des gens ont compris. Et ceux qui n'ont pas compris, c'est pas qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils l'ont compris, mais ils font semblant de ne pas avoir compris. C'est que je ne me force pas à citer tel ou tel groupe ou tel ou tel film.
Oui. C'est pas pour illustrer.
Non, c'est pas pour illustrer. J'écoute Deep Purple depuis 11 ans. J'écoute Pink Floyd depuis 11 ans. ACDC, j'écoute, je sais pas, du rock progressif. Là, je suis en pleine période de Miles Davis des années 70. Je m'éclate, mais comme un fou. J'ai écouté ça dans le train en arrivant. Je veux dire, la musique fait partie de ma vie, mais j'en écoute tout le temps, au quotidien. Et c'est ce que j'écoute avec ma fille. Et je lui fais écouter du Magma, du Gong, du Prodigy, du Radiohead, du Brassens, du Gérard Manset. Polnareff, Tiefen, Téléphone. J'aime ça, c'est ce que j'écoute depuis toujours. Et c'est ma grande liberté, mon grand plaisir d'évoquer ça quand ça se prête au récit. Il ne s'agit pas de dire, tiens, j'ai envie de caser du Téléphone au 19e siècle. Non, c'est pas ça. Non, ça n'existe
pas. C'est pas plaqué, quoi.
Voilà, c'est pas plaqué. Mais par contre, voilà. D'ailleurs, dans La Voix secrète, forcément, Led Zepp n'existant pas en 1835, j'ai fait des petites références que j'ai intégrées dans le texte, voilà, que les connaisseurs reconnaîtront de groupe et tout ça, parce que il y a des chapitres que j'ai travaillés en écoutant au casque des morceaux en boucle, et j'ai casé 2-3 références dans le texte, je les ai insérées comme ça, notamment un morceau de Magma. Mais donc non, c'est ma culture. Je sais pas comment dire ça.
C'est ta signature, quoi. C'est ce qui fait le côté totalement.
C'est ma signature, et c'est parce que la notion de filiation est très importante pour moi. Quand on s'est construit avec, alors bon, je vais un peu mélanger certains trucs, mais quand on s'est construit avec les films de Philippe Noiret, avec Pink Floyd. Avec la peinture de Magritte et avec l'humour de Coluche ou Corolini Bruce, par exemple, il se trouve que quand on a la chance un jour d'être publié, quand on a des lecteurs, quand les gens sont contents, que ça mène du dialogue, du partage, j'ai à cœur de m'inscrire, de m'inscrire dans une continuité. Il ne s'agit pas de se comparer à Cassavetes ou d'autres, c'est pas ça. Mais j'ai grandi avec tel ou tel bouquin, tel ou tel film, et ben mon grand plaisir aujourd'hui c'est sous certains aspects, au détour d'un paragraphe, de faire un clin d'œil à cette culture que j'aime et voilà, et dont je me revendique, pour la faire partager. Et puis parce que c'est aussi du plaisir, c'est du ludique, hein. Depuis tout à l'heure je parle beaucoup politique, machin, tout ça, mais je veux dire, l'écriture, c'est avant tout un plaisir, c'est faire plaisir aux gens. Si je peux effectivement vous faire réfléchir sur un sujet ou détour d'un polar, c'est super. Mais je veux dire, avant tout, quand les gens vont au cinéma ou achètent un bouquin, c'est pour passer un bon moment. Et voilà, je le dis pas de manière péjorative, c'est pour passer un bon moment de manière intelligente. Voilà. Donc vous allez lire un polar avec du suspense, une poursuite en voiture, ce que vous voulez. Mais si en plus vous vous dites, ah ben tiens, c'est intéressant, je ne savais pas que c'était passé ça à telle époque. Ah ben tiens, j'ai appris un truc. Ben, c'est super pour moi, parce que vous avez à la fois l'aspect ludique et le frisson du suspense, et en même temps, le petit truc qui va vous rester sur une époque historique ou un certain contexte. Voilà. Et peut-être 2-3 références. Et en même temps, si la référence musicale ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Vous continuez, vous tournez la page, vous continuez. Je ne fais pas de prosélytisme. Mais c'est vrai que c'est de la musique que j'aime. Et justement, dans Cotton's Warwick, qui est l'un des bouquins dans lequel j'ai exploré le plus la notion d'écriture, ou en tout cas mon écriture, j'ai beaucoup travaillé sur le rien, sur l'absence, sur la folie, et travailler sur la distorsion de la musique par rapport à ce que, parce que c'est pareil, je veux dire, si on écoute un morceau en France en 2017 chez soi dans un super appart bien chauffé, c'est pas comme si on l'écoute dans le nord de l'Angleterre dans un appart glacé où on est tout seul, où ça pue la mort, voilà, ou en Australie dans une usine, dans un abattoir avec des carcasses de viande qui pourrissent par 50 degrés
et des razorbacks qui assaillent
avec des animaux et tout. Oui. Ça, voilà. Donc j'aime beaucoup travailler sur ma perception des choses. Qu'est-ce qui fait que moi je ressens ça en écoutant cette ligne de basse sur tel morceau? Comment je peux retranscrire ça dans le rythme? C'est ce que je fais beaucoup là, justement, dans mon livre sur les Black Panthers, parce que je travaille aussi sur la mutation de la soul en funk, qui était une musique de revendication à l'époque, qui est à la fois dans l'urbain et dans le tribal. Il y a ce rythme, ça repose beaucoup sur la répétition, sur une musique qui transcende, un peuple qui se libère, hein, voilà, enfin tout ce qui touche aux Afro-Américains des années 60. Donc c'est pareil, qu'est-ce qui fait que moi je ressens ça? Comment je peux le retranscrire pour essayer de moi vous faire ressentir ça? C'est ça, voilà, c'est l'écriture, pour ça c'est formidable, parce que on peut tout explorer. Et justement, voilà, je reviens sur Ombre Noire, ce que tu disais. Alors j'ai beaucoup de chance, parce que jusqu'à présent tous mes éditeurs sont formidables. Rivage, j'ai bossé avec Jeanne Guyon sur ma trilogie, ça m'a fait faire un bond pas possible entre le premier et le deuxième volet. Je suis monté d'un cran parce que j'ai compris plein de choses, plein de types d'écriture et tout ça. Voilà, bon, chez Ombre Noire, bah forcément, il y a une ligne éditoriale peut-être un peu plus... un peu plus punk sous certains côtés. Donc voilà, je ne le dis pas contre Rivage. Hein, c'est-à-dire que moi, j'aime bien justement l'idée d'avoir des éditeurs pour des créneaux différents. Parce que comme ce que tu disais dès le début, j'écris un peu de tout. Donc c'est vrai que des fois, voilà, on va présenter un bouquin à un éditeur, on va nous dire on trouve ça très bien, mais bon, ce n'est pas pour nous. Ben, ce n'est pas grave, je vais le proposer ailleurs. Et puis en même temps, je vais rester chez vous. Il y en a pour tout le monde. A priori, il y en a pour tout le monde. Et voilà, bon, ben, voilà, il se trouve que La Voix Secrète, Polar Historique, 10-18, évidemment, qui est quand même la collection phare.
Oui,
voilà.
qui est une collection où beaucoup de lecteurs qui ne lisent pas forcément des choses...
effectivement, des polars vont y venir par le biais de l'histoire. Voilà. C'est vachement intéressant.
Voilà,
c'est vrai qu'Ombre Noire me permet, c'est pour ça que voilà, je rends hommage justement à mon éditrice Caroline Lamouly, parce qu'effectivement, j'ai pu aussi m'émanciper de certains sujets. J'ai écrit sur le foot, alors que le foot m'intéresse pas du tout à la base. Voilà, sur l'Australie, effectivement, parce que bon, il se trouve que Bienvenue à Coutons Warwick, c'est un hommage, oui, à cul-de-sac, à Délivrance, un peu Massacre à la tronçonneuse. Il n'y a pas de tronçonneuse dans le roman, mais tous ces films qu'on a vus, qu'on peut qualifier de plaisir coupable. C'est-à-dire, on aime bien voir des films super intello, machin, tout ça. Je suis le premier à aimer ce genre de film. Et en même temps, c'est quand même vachement agréable de voir un film dans lequel il y a des gens poursuivis par des fous furieux avec des couteaux. C'est, voilà, on regarde ça en bouffant des M&M's avec une bonne bouteille de coca. Moi, j'aime bien quand on regarde ça entre potes, on se marre bien avec des pizzas avant ou après. Voilà, un plaisir coupable. Donc, c'est aussi un hommage à cette culture de genre dans laquelle j'ai grandi, parce que je crois beaucoup au mélange des genres. C'est pour ça que là, voilà, ce que tu as amené comme
oui, film, par exemple.
Voilà, il y a du Pink Floyd, et en même temps, il y a du Melville, et puis voilà. J'aime beaucoup Les Soudoués aussi, qui est un film qui me fait marrer. Le mélange des genres, j'aime beaucoup ça, parce qu'en même temps, quand on mélange les genres, on peut aussi mélanger les cultures, et puis peut-être mélanger les lecteurs, et voir aussi si des gens, par le biais de l'histoire, peuvent aller au polar. Et si des gens qui vont lire un bouquin fantastique parce qu'ils aiment le fantastique, ils vont peut-être aimer tel aspect sociologique, par exemple.
En tout cas, merci beaucoup de cet enthousiasme. En tout cas, on sent bien, ça donne très envie de lire le prochain autour des Black Panthers, pas sur les Black Panthers.
Sur et autour.
Merci, Michael.
Merci beaucoup.